La science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Pour ce quatrième épisode, comment le fantasme du voyage lunaire s'est-il construit et la Lune continue-t-elle de faire rêver ? Bien avant les récits de science-fiction, la Lune est présente dans de nombreux folklores, dans toutes les cultures, toutes les littératures. Symbole excitant d'un monde nouveau, le 19e siècle foisonne d'un récit de voyage lunaire. Avant que l'on y pose le pied, comment les représentations de ces paysages et de ses habitants, les Sélénites, se sont-ils élaborées ? Et depuis ce petit pas pour l'homme, comment cet imaginaire se renouvelle-t-il, non pas grâce au côté obscur de la Force, mais de la Lune bien sûr ? La SF a rendez-vous avec la Lune. Fleur Hopkins, Lofréron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en science-fiction, histoire des imaginaires et culture populaire. Et nous sommes en ligne avec Elsa De Smet, bonjour. Elsa De Smet, qui était en ligne avec nous il y a quelques instants et qui va nous rejoindre dans quelques instants aussi. Elsa De Smet, qui est docteur en histoire de l'art contemporain et autrice du livre « Voir l'espace ». L'astronomie, science populaire illustrée, qui est éditée aux presses universitaires de Strasbourg en 2018. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X, sur notre fil @sciencecqfd, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors qu'est-ce qui relève d'une futurologie lunaire dans la littérature avant même l'apparition du terme science-fiction ? Comment ont évolué les représentations des peuples lunaires et leurs interactions avec les terriens ? L'exploration spatiale a-t-elle fait perdre de l'intérêt pour notre satellite ? Et en d'autres mots, est-il devenu ringard aux yeux des écrivains et des scénaristes ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par le plus célèbre des voyages lunaires. C'est notre archive du jour. Nous sommes en 1952.
De tous les auteurs français du siècle dernier, Jules Verne est sans doute celui dont l'œuvre aura le plus enchanté l'adolescence. Et les anticipations hardies de celui qui imagina de faire faire à ses héros le tour de la Terre en 80 jours se sont prouvées singulièrement justifiées par notre époque. En 1863, 5 semaines en ballon précédaient de 70 ans l'utilisation du ballon comme moyen de transport. Son voyage au centre de la Terre de 1865 évoquait les gouffres que les spéléologues explorent de nos jours. Et son train de l'éther s'envolait vers la Lune qu'on ne désespère plus d'atteindre. Mais surtout en imaginant les extraordinaires paysages sous-marins de la croisière du Nautilus, ou en entraînant ses lecteurs à bord de son navire volant l'Albatros, Jules Verne a su être à la fois le prophète de son temps et l'annonciateur d'une autre.
Un extrait du journal des actualités françaises en 1952. Fleur Hopkins, Lofréron, aujourd'hui quand on parle de voyage sur la Lune, on pense immédiatement au diptyque de Jules Verne, de la Terre à la Lune en 1865 et autour de la Lune en 1869.
Oui, absolument, et c'est lié à un aspect saillant, c'est évidemment son fameux obus habité, qui est donc qui porte en son centre plusieurs êtres humains et des chiens, et qui donc, contrairement à ce qu'on croit parfois, ne va pas sur la Lune, hein, il va autour de la Lune, ce qui justifie le nom justement du deuxième opuscule de Jules Verne. Mais effectivement, Jules Verne est dans toutes les mémoires et sur toutes les lèvres hein, des lecteurs et des commentateurs du voyage lunaire, précisément parce que pour la première fois, mais il y a d'autres précédents aussi, il présente un modèle qui paraît tout à fait vraisemblable et crédible, celui d'aller grâce à une très grosse explosion en direction de la Lune, à bord véritablement d'un obus.
Elsa De Smet, justement, Jules Verne ne pose pas le pied sur la Lune, en effet, il fait un voyage. Votre réaction, vous aussi, à cette archive de 1952 ?
Mais alors, ce qui est...
Ah, visiblement, on a...
C'est qu'en effet, il est exactement à cet endroit de ce qu'on appelait à l'époque... Vous ne m'entendez pas ?
On a des petits soucis de connexion. Je pense que le réseau Internet n'est pas très bon. Et peut-être qu'on va vous appeler directement sur une ligne téléphonique, ce qui sera peut-être moins assuré. On s'en occupe tout de suite au niveau de la technique. Merci beaucoup, Elsa De Smet. Fleur Hopkins, Lofréron, hein, on reviendra évidemment sur Jules Verne dans le détail, mais tout de même pour introduire cette émission sur l'aspect visionnaire et prophétique de Jules Verne.
Alors c'est vrai que ça, c'est des termes qu'on retrouve toujours quand on parle de Jules Verne, parce qu'on aime aussi en France en faire le grand parangon de la science-fiction, et cette idée qu'il avait tout deviné avant que ça se développe, parce qu'il avait, on l'entend bien dans l'archive, hein, cet aspect de prophète. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette archive sonore, c'est la belle expression, hein, la lune qu'on ne désespère plus d'atteindre. Cette idée que véritablement, Verne, avant même qu'on mette véritablement le pied sur la surface lunaire, eh bien, il avait deviné que bientôt on le ferait, et c'est pour ça qu'on l'appelle véritablement prophète. Mais comme je le disais un peu plus tôt, effectivement, ce qui marque ce roman d'aventure scientifique, hein, on peut le qualifier comme tel, ce roman astronomique extraplanétaire de Jules Verne, c'est vraiment la vraisemblance, l'idée qu'on se plaît vraiment à y croire, à cette possibilité-là. Il suffit d'avoir des sous, d'avoir un club qui est prêt à mettre suffisamment d'argent et on s'envole dans l'espace en direction de la Lune.
Jules Verne, chez lui, hein, tout est détaillé jusque dans le temps de parcours exact de la capsule, hein, qui est sous titre du premier livre, de la Terre à la Lune, trajet 11 direct.
11 km par seconde, c'est pas rien.
Trajet direct 97 heures et 20 minutes. La Lune a quand même, avant Jules Verne, quand même, la Lune a une place importante dans la vie des humains sur Terre. C'est, on peut dire, un topos de la littérature qu'on trouve absolument partout, Fleur Hopkins Le Féron.
Oui, alors c'est presque une platitude de le dire, hein, mais la Lune, dans les croyances, dans le folklore, que ce soit le loup-garou jusqu'au cycle féminin menstruel, hein, la Lune, elle est partout. C'est quand même l'astre qui est le plus proche de la Terre et c'est celui qu'on voit à tout moment. Donc c'est assez naturel, hein, qu'on se plaît à rêver tout simplement la possibilité d'une existence en son sein. Et évidemment, à mesure que les lunettes astronomiques se développent et se précisent, et ça je pense qu'Alza de Smet pourra dire tout un tas de choses passionnantes sur cette culture visuelle précisément de la Lune, eh bien c'est ça qui est tout à fait intéressant. Plus on la voit de manière nette, plus on se plaît à rêver que dans ces crevasses, dans ces interstices et dans ces cratères qui quelque part ne sont pas tout à fait visibles, eh bien il y a des sélénites, des castoriens, des luniens, ils ont tout un tas de, il y a toute une taxonomie, hein, de noms tout à fait savoureux et poétiques, mais en tout cas c'est le paradoxe, plus on voit cette lune, plus on s'en approche par l'esprit, plus on se dit qu'elle est forcément habitée.
Elsa de Smet, on vous a récupéré par voie téléphonique, justement depuis quand rêvons-nous d'aller sur la lune?
Alors, est-ce que vous m'entendez cette fois?
Oui. Oui, on vous reçoit.
Oui, ok, pardon. Depuis quand on rêve d'aller sur la Lune? En effet, comme Fleur vient de le dire, la Lune, c'est la première expérience astronomique que chaque terrien fait. C'est vraiment ce moment où on lève le regard vers le ciel et on fait cette première expérience de se projeter vers la Lune. Donc, c'est un astre qui a généré depuis, je pense, le début de l'histoire humaine, tout un tas de fantasmes. Le moment où on commence à rêver d'y aller, en fait, il y a plusieurs étapes. Je dirais que il y a d'abord une étape qui passe par la fiction. C'est la fiction qui va engendrer, qui va faire naître le rêve d'y aller. Au XVIe siècle, il y a un fameux texte qui s'appelle de Kepler, en fait, qui va raconter le fait d'aller sur la Lune, de rencontrer des voyageurs et donc de vivre cette expérience qui permet en fait cette transposition, qui permet de commencer à créer le voyage et donc à commencer à s'approprier cet autre paysage. Et puis c'est vraiment au XIXe siècle que parce que la révolution industrielle fait émerger de nouveaux outils, de nouveaux types d'observation, une nouvelle narration aussi. On mentionnait Jules Verne tout à l'heure, évidemment. Jules Verne qui raconte ce voyage, comment ça générer aussi la possibilité de quelque chose. Mais concrètement, tout ça, ça reste une narration, ça reste une histoire et ça reste jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, ça reste quelque chose qui est on passe par la fiction pour souvent quelque chose qui est de l'ordre de l'analogie ou de la narration ou pour s'approprier, en fait, pour trouver la littérature et la fiction sont aussi des moyens de s'approprier des connaissances qui sinon restent très obscures et restent pendant très longtemps mathématiques. Donc il faut trouver ce lieu de jonction aussi entre quelque chose de scientifique et une expérience qui serait une expérience un peu plus incarnée. Ensuite, le voyage vraiment concrètement, il arrive au début du XXe siècle parce que à force aussi de construire des outils, arrive cette idée que peut-être on peut faire des fusées. Et ça c'est une idée qui émerge au départ pas vraiment pour faire un voyage dans l'espace, mais qui vient rejoindre aussi cette culture populaire de la transposition vers un autre endroit et vers un espace extraterrestre. Et donc il y a en Russie, aux États-Unis et en Allemagne notamment, en Allemagne c'est un monsieur qui s'appelle Hermann Oberth qui va construire la première fusée. Et au départ, cette première fusée, ce qui est assez beau aussi dans cette histoire-là, c'est que la première fois qu'elle sera construite, c'est pour un film de Fritz Lang qui s'appelle La femme sur la lune en 1928. Et donc c'est vraiment, là encore, le début du voyage qui se construit par la fiction pour accompagner aussi une histoire technologique et scientifique qui grandira ensuite à travers tout un tas une rhétorique aussi politique, industrielle, ingénierique. Et c'est une histoire des techniques qui va aussi avec une histoire des sociétés tout au long du XXe siècle.
Je remonte quand même en arrière, Fleur Hopkins à l'Oféron. Quelle est la première trace de voyage sur la Lune, le premier texte recensé?
Alors c'est toujours la question qui obsède hein, les collectionneurs, les érudits de science-fiction. Le premier texte de science-fiction, le premier texte qui met en œuvre tel motif. Alors, on a tendance à dire que ce serait, je dis bien, voilà, le conditionnel Lucien de Samosate avec son histoire vraie. Mais attention, c'est une satire. Il ne s'agit pas du tout d'être dans un texte scientiste qui nous dit « on va aller sur la Lune » puisque je rappelle que chez Lucien de Samosate, on y va grâce à une bourrasque qui nous emporte dans les airs et qui nous emmène justement sur cet astre. Donc on est vraiment dans un récit plutôt fantasmagorique. Il faut savoir aussi que dans les histoires vraies, un peu plus loin, on a un homme qui vit dans une baleine. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'on appellerait un roman de science-fiction, un roman scientifique. On est vraiment plutôt dans quelque chose qui touche à la satire et qui, en fin de compte, va être aussi une parallèle fictionnelle qui va se développer conjointement à tous ces récits plutôt positifs et scientistes. C'est tout ce qui va toucher à la féerie, aux utopies planétaires. En fin de compte, si la Lune, elle fascine autant les littérateurs et les écrivains depuis l'Antiquité, c'est aussi parce qu'elle a un potentiel, en quelque sorte, de petite sœur de la Terre. On imagine donc qu'à sa surface, on pourrait avoir d'autres populations, par exemple une population entièrement composée de femmes, et ça permet de créer une satire où les femmes sont au pouvoir, oh là là, les aviateurs qui arrivent sont complètement catastrophés parce que ça crée des situations délirantes. Mais la Lune permet, en fait, de développer ce qu'on connaît depuis le Moyen-Âge comme étant un monde à l'envers, c'est-à-dire une satire de ce qu'on connaît parce qu'elle permet un processus d'éloignement, d'estrangement, tout simplement.
Cette première satire, on est au deuxième siècle, c'est ça?
Oui, absolument, absolument.
Première satire, alors pourquoi proposer une fiction avec un voyage concrètement vers la Lune, décrire des lieux, surtout des habitants dans cet astre? C'est aussi quelque chose qui a pu être compliqué.
Compliqué. Alors là, je pense qu'Elsa aurait un très bon complément à faire, ne serait-ce que sur la partie visuelle, mais c'est tout simplement parce que on se base d'abord sur des préconceptions, sur des suppositions, et il faut vraiment attendre, comme le disait Elsa, hein, il faut attendre vraiment autour de 1850 pour que véritablement la question de la planétologie se pose en propre, grâce notamment aux avancées de la spectrographie. Et c'est là où on commence à se dire, aïe aïe aïe, peut-être que la Lune, elle n'a ni gaz, ni liquide, ni eau, et que de fait, il n'y a simplement pas de vie à sa surface. Mais jusque-là, hein, on se plaisait à rêver à la fois des voyages sur lesquels on aura sans doute l'occasion de revenir, hein, par des moyens totalement délirants, mais surtout, à ce moment-là, on se posait la question simplement, non pas de l'habitabilité de la Lune, mais de la possibilité d'une existence de vie à sa surface. Donc on voit qu'au fil du temps, il y a une évolution des questions qu'on se pose. On va avoir autour de Thomas d'Aquin, autour du XVIe et XVIIe siècle, la question de « mais si la Lune est habitée, qu'est-ce que ça pose en propre comme question concernant nos croyances chrétiennes ? Est-ce que le Christ sauveur, il a aussi sauvé les Martiens, les Sélénites ? » Enfin, ça nous paraît, et là on en rit, mais en fin de compte, c'est une vraie question philosophique à l'époque. Est-ce qu'on peut avoir un christianisme cosmique? Enfin, chaque époque va avoir une problématique lunaire qui est spécifique. Celle, effectivement, je le disais, de l'habitabilité, de la pluralité des mondes, et ici, tout simplement, le christianisme cosmique. Donc, la Lune, c'est pas juste un horizon désirable, ça dit aussi quelque chose de l'histoire des mentalités, tout simplement, de son époque.
Ce christianisme cosmique, justement, Johannes Kepler, célèbre physicien, donc qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, a écrit Le Songe en 1608, il s'y est aussi frotté, et pour lui, pour Kepler, qui raconte dans ce texte qui est la frontière entre science et fiction, le but de Kepler à ce moment-là, c'est de défendre la position de l'héliocentrisme énoncée par Copernic et défendue par Galilée. Je me tourne à ce moment-là vers vous, Elsa de Smet.
Oui, alors ce texte, il est fondamental parce qu'il dit exactement ce sur quoi je pense vraiment on se rejoint, c'est-à-dire que c'est une histoire dans laquelle les sciences et les fictions sont complémentaires et jamais opposées. En fait, elles ont besoin l'une de l'autre. Et ce qui est très beau avec ce texte de Kepler, et là on peut, je pense, de manière collective, renvoyer tout le monde vers un très beau livre qui s'appelle Conte de la Lune, qui a été écrit par Frédéric Aitouati, et qui fait justement une analyse en littérature et qui prouve à quel point il y a vraiment une coalescence entre science et fiction à ce moment-là qui est nécessaire pour s'approprier. Encore une fois, c'est le recours à la fiction qui va permettre de s'approprier des connaissances scientifiques telles qu'on a envie de les traduire, en fait. Parce qu'il y a un moment où ces connaissances scientifiques, et c'est ce qu'essaye de faire Galilée aussi dans le Messager Céleste, etc. C'est-à-dire qu'on essaye de les partager, parce qu'en plus, l'astronomie est une science qui va grossir aussi au sein des sciences, qui sont les sciences qui vont devenir partageables et attrapables aussi par les autres, et qui, de fait, concernent des considérations fondamentales sur notre existence, et qui sont autant philosophiques, en effet, que spirituelles, religieuses, etc., puisque ça touche à chaque fois à d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est, et où est-ce qu'on va. Et ce livre, il est absolument, enfin, ce texte est absolument fondamental parce qu'il dit ce que feront les images après, c'est-à-dire comment est-ce que je peux, à vous, lecteurs, vous permettre de vous approprier ces connaissances que moi, scientifique, finalement, j'ai collectées. C'est le recours à quelque chose qui vient se mettre entre nous, mais qui est un véhicule cognitif magnifique, qui est celui de la fiction, pour que vous puissiez comprendre par le biais d'une narration, par le biais d'une situation. Je vous mets en situation de comprendre quelque chose. Je vous emmène avec moi dans des phrases et dans une forme de peut-être pas de dramaturgie, mais en tout cas de quelque chose que vous allez suivre et chemin faisant, apprendre des choses qui sont extrêmement différentes de ce qu'on a pu penser pendant très longtemps, puisqu'on pensait aussi pendant très longtemps que la Lune c'était la Vierge, que c'était quelque chose de très pur, etc. Et puis au fur et à mesure, les connaissances grandissant, on s'approprie de plus en plus ce paysage et il faut pouvoir se le représenter. Donc d'abord, l'image, elle est littéraire, puis elle deviendra visuelle, et j'imagine qu'on en parlera peut-être un petit peu après.
On y reviendra en effet, le songe de Kepler, c'est une véritable œuvre scientifique et un récit complètement fantastique. Certains considèrent d'ailleurs ce texte comme le premier récit de science-fiction au sens propre du terme. Alors le terme science-fiction, lui, n'apparaît en France qu'en 1950. On peut dire qu'on peut voir à partir du 19e siècle, comme je disais, les récits autour d'un voyage direction la Lune se multiplient. Fleur Hopkins, l'offre-t-on pour quelle raison ?
Vaste question. Je pense que c'est lié à tout un tas de phénomènes. Alors, comme on le disait, c'est aussi lié tout simplement au fourmillement des sciences de l'époque, hein, tout simplement, qui s'ouvre de plus en plus à la spectrographie. Aussi, on a quand même aussi la publication de l'origine des espèces de Darwin, qu'il ne faut pas négliger dans cette histoire lunaire, puisque ça pose véritablement la question de la possibilité d'une autre vie qui se serait tout simplement adaptée à l'aridité de la Lune, hein, puisque dans les débats, on commence à se rendre compte que la Lune n'est pas un espace aussi chaleureux et aussi accueillant qu'on le croit, mais peut-être qu'au fil des souterrains, des cratères, il y a effectivement des sélénites qui se sont adaptés. Mais voilà, je pense que ce moment de fourmillement, c'est vraiment post-1850, et on le voit très bien avec Verne qui véritablement marque un cap. Mais la raison pour laquelle la Lune est si prégnante dans les récits d'imagination scientifique, comme je le disais, c'est parce qu'elle permet à la fois l'estrangement, et elle n'est pas si loin que ça. Donc on a vraiment cet horizon de « on pourrait l'atteindre si on avait une technologie suffisante qui nous permettrait d'y aller et de découvrir surtout un nouvel espace, puisque précisément, on arrive au 19e à un moment où on a le sentiment qu'on a tout cartographié. Et c'est pour ça qu'on se tourne alors vers un sixième continent qui est celui évidemment des abysses, vraiment les abysses marines, qui est peut-être une extension de notre monde. Et il y a vraiment cette envie tout simplement d'aller cartographier au-delà des limites terrestres en se tournant surtout vers un astre que on essaye de cartographier de plus en plus par des cartes spatiales, par notamment de la photographie. Donc c'est assez logique en fait que l'on dirige notre regard vers cet astre.
Voilà, une nouvelle Terre inconnue à découvrir et à explorer. Alors que trouve-t-on sur la Lune ? Que voit-on sur la Lune ? Des extraterrestres, bien sûr. Restez avec nous.
7, 6, départ séquence mise à feu. 3, 2, 1, mise à feu.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
Houston. Nous avons quitté la tour de lancement. Il est 13h13.
Ok les gars, on y est.
En direct sur France Culture, avec Elsa De Smet et Fleur Hopkins Lauferon, on continue notre semaine spéciale Lune, des voyages imaginaires aux voyages réels. On vient de parler des raisons pour lesquelles la Lune fascine les auteurs avant le début de la réelle conquête de l'espace. Qu'est-ce qui fascine les écrivains et à quoi sert l'imaginaire lunaire ? Fleur Hopkins Lauferon, quelle technologie avons-nous imaginé pour nous rendre sur la Lune ?
Oh, eh bien là aussi, ça va dans tous les sens. Alors, on peut faire déjà un gros distinguo. Les technologies plus ou moins scientistes et crédibles et qui reposent sur des technologies vraisemblables, et là où on part vraiment dans la féerie, dans le conte de fées, dans l'imagination pure. Je pense par exemple à Cyrano de Bergerac et son histoire comique des États et des Empires de la Lune en 1657. On y va, alors par plein de moyens différents, parce que ça rate un peu à la manière des Shadocks, encore et encore. Donc il utilise tout d'abord des fioles dans lesquelles il met de la rosée, et il pense que le soleil par condensation va l'emporter doucement vers justement l'astre lunaire. Ça ne fonctionne pas. Il peut essayer aussi de se suspendre à des oies, d'essayer de monter le long d'un haricot géant comme le baron de Munchausen. Enfin, il y a tout un tas de techniques délirantes. C'est généralement lié à des objets volants, lié aussi à la montgolfière. N'oublions pas qu'en 1850, là je saute des étapes, mais Nadar est passé par là. Et évidemment, c'est pas pour rien que la montgolfière, le dirigeable, reste des éléments assez précieux pour aller vers l'astre lunaire. Mais ce qui va vraiment dominer, évidemment, dans l'ère post-vernier, c'est tout ce qui va reposer sur les explosions, les canons, et notamment des gens comme Georges Lefort, Henri de Graffigny. Il y aura tout ce qu'on peut appeler des suiveurs de Verne, hein, qui vont embrasser l'idée de l'obus et ensuite dans son sillage celui de la fusée, tout simplement qui se base justement sur le feu d'artifice. Et puis on aura des propositions qui sont un peu entre les deux, un peu curieuses. Et là, je pense plutôt à Wells, qui n'est pas le premier hein, à imaginer une substance qui serait anti-gravitationnelle. Il y a eu Tucker avant lui, il y a eu d'autres écrivains, mais peu importe. On est vraiment là dans
un fantasme bizarre. Les premiers hommes dans la Lune.
C'est ça, les premiers hommes dans la Lune en 1901, et qui sera très rapidement traduit en France, donc il aura un véritable impact sur les écrivains français. Et lui, il propose tout simplement que le cavor, hein, il porte bien son nom, il a développé la cavorite, qui est un mélange un peu d'une substance un peu exotique et de d'hélium qu'il aurait raffiné. Et grâce à ça, il arrive à faire une espèce de substance opaque à la gravitation et hop, on s'envole dans les airs. Et ça, c'est vraiment un texte qui sera fondamental à tout plein de niveaux, ne serait-ce que sur l'imaginaire des sélénites, mais aussi sur cette idée qu'on pourrait, grâce à une substance exotique, s'envoler en direction de la Lune.
Elsa de Smet, justement, sur ces différents moyens technologiques imaginaires pour poser un pied sur la Lune.
Oui, alors moi je voulais aussi rajouter par rapport à ce qu'on a dit juste avant cet extrait que une des raisons aussi pour lesquelles on s'intéresse autant à la Lune, c'est qu'arrive au 19e siècle une idée aussi assez républicaine du partage des savoirs. Et qu'encore une fois, là on est dans une science qui touche à la fiction, une fiction qui touche aux sciences, mais qui est aussi quelque chose où, à mon avis, il est question vraiment de partager des savoirs. Et qu'encore une fois, pour partager ces savoirs, la question de la fiction et de ses représentations va se poser. Et la Lune, en fait, c'est vraiment le véhicule le plus proche. Mais donc c'est vraiment aussi parce qu'il faut partager les connaissances qu'on se tourne vers cet astre qui est si proche de nous. Par rapport au véhicule, l'histoire de la fusée aussi, elle est assez intéressante parce que avant d'arriver à la fusée, ils ont fait tout un tas d'engins qui sont des propulseurs, etc. C'est aussi une histoire qui est liée, en effet, à la photographie, comme disait Fleur, qui est aussi une histoire qui est liée à une histoire militaire. Assez rapidement, on en arrive à cet objet oblong, mais qui, de fait, avant d'exister réellement, va exister par des dessins, par des soucoupes, par des vaisseaux qui vont être souvent circulaires ou souvent verticaux et qui vont venir se poser au fur et à mesure sur ces peintures, enfin sur ces illustrations de paysages. On retrouve en fait de manière assez systématique souvent. Moi, j'avais un peu cette crainte de me dire, mais en fait, cet imaginaire est pléthorique. Assez rapidement, on a des formes qui deviennent répétitives en fait dans une histoire visuelle qui est aussi une histoire visuelle de la popularisation des connaissances et qui n'est pas tout à fait celle de la science-fiction à proprement parler.
Et puis Jules Verne avait une haute opinion de l'astronomie. Il écrit « Un astronome est plus qu'un homme puisqu'il vit en dehors du monde terrestre ». Fleur Hopkins-Lauferon.
Non, c'est une très belle citation. Elle pourrait presque venir de Camille Flammarion, qui est un autre grand monsieur hein, qui
rêveur
est à la
aussi.
Fois entre, c'est ça, qui est entre la fiction et entre l'astronomie pure et dure, mais lui qui disait par exemple que l'un des meilleurs moyens d'aller dans les étoiles, hein, c'est tout simplement de regarder de manière avide et carrément hypnotique les étoiles, de se mettre en transe et de s'envoler jusque sur la Lune. Et ça, c'est vrai que c'est un moyen qu'on n'a pas évoqué, mais il y a de très nombreux récits qui mettent en scène des transes, des rêves, des trans somnambuliques pour aller sur la Lune. Il suffit de s'auto-suggestionner.
Voilà, le voyage spirituel. Je vous propose justement hein, de survoler la Lune avec un extrait de « Autour de la Lune » de Jules Verne. Le projectile s'avançait avec une vitesse presque uniforme, en prolongeant le disque lunaire. Les voyageurs, on l'imagine aisément, ne songeaient pas à prendre un instant de repos. Chaque minute déplaçait le paysage qui fuyait sous leurs yeux. Vers 1h30 du matin, ils entrevirent les sommets d'une autre montagne. Barbicane, consultant sa carte, reconnut Ératosthène. C'était une montagne annulaire, haute de 4500 mètres, l'un de ces cirques si nombreux sur le satellite. Et à ce propos, Barbicane rapporta à ses amis la singulière opinion de Kepler sur la formation de ces cirques. Suivant le célèbre mathématicien, ces cavités cratériformes avaient dû être creusées par la main des hommes. Dans quelle intention ? Demanda Nicole. Dans une intention bien naturelle, répondit Barbicane. Les sélénites auraient entrepris ces immenses travaux et creusé ces énormes trous pour s'y réfugier et se garantir des rayons solaires qui les frappent pendant 15 jours consécutifs. Pas bête, les sélénites, dit Michel. Voilà, le second livre qui débute au moment où le projectile orbite autour de la Lune. Alors, les Séléniens, les Sélénés, les Luniens, les Sélénites, ils ont tout un tas de noms, hein, et d'apparences. Fleur Hopkins Lauferon, à quoi ressemblent justement les habitants de la Lune?
Alors, c'est tout à fait foisonnant. Et là, quand même, ce qu'il faut remarquer dans cette archive, ce qui est amusant, dans cette lecture plutôt, c'est qu'on ne les voit pas, en fait, les Sélénites. Et Verne, il fait attention. Il n'affirme pas que les Sélénites sont là, au point où il a été assez critiqué à l'époque au moment de la réception de son livre en disant, mais on aurait aimé en fait que Verne nous dise si les Sélénites, les Castoriens sont véritablement là. Et il reste voilà très dubitatif, il ne dit rien, il suggère leur présence. Et bien quand on a la chance de les voir, ces Sélénites, ils sont extrêmement divers. Je crois que les plus choquants, les plus frappants, c'est ceux d'Henri de Graffini, où c'est vraiment des géants absolument gigantesques. On dirait qu'ils sont passés sous un rouleau compresseur et donc ils sont étalés dans l'espace. Mais chez d'autres auteurs, on a des nains aussi. Et généralement, ça c'est plutôt du côté de l'utopie, c'est une petite peuplade qui accueille les humains. Il y a tout le mythe colonial aussi qui passe par là, où on accueille les humains à bras ouverts. On a aussi l'image des Sélénites ailés, un peu à la manière des hommes-chauves-souris. Et ça dérive directement d'un prototype qui est lié en fait au canular lunaire qui soi-disant était attribué justement à Herschel, mais qui pas du tout. C'est un journaliste qui s'appelle Richard Locke qui l'a construit de toutes pièces. Il était publié en 1835 dans le Sun et il prétendait au cours de 6 épisodes justement avoir observé des Sélénites volant dans l'espace lunaire. Donc vraiment, ils ont des apparences très 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 diverses. Certains sont même éthérés, certains sont sous la forme d'énergie. Là, je pense par exemple au texte L'Éther Alpha de Bailly, qui en 1929 nous raconte qu'en fait, les Sélénites, non seulement ils sont sous la forme d'énergie, mais ils nous détestent. Ils nous observent en fait depuis la nuit des temps, un peu comme chez Pierre de Célène, l'idée que les Luniens, ils ont un observatoire, ils nous regardent. Et en fait, ils ont conclu, comme beaucoup d'autres films catastrophes de science-fiction aujourd'hui, qu'il faut éliminer les humains parce qu'en fait, ils portent atteinte à la planète Terre.
Alors ça me fait penser à ce canular, le fameux canular dans The Sun en 1835. En effet, le journaliste dit qu'on a utilisé un nouveau télescope ultra puissant, qu'on voit des hommes chauves-souris. Ça a eu aussi, Elsa de Smet, ça a eu aussi une influence sur la représentation, l'observation d'une civilisation lunaire ailée. On peut dire d'une certaine façon que le Sélénite, c'est aussi le premier alien.
Oui, le Sélénite, c'est le premier alien. Le Sélénite, c'est la première altérité aussi. Enfin, c'est-à-dire que, en effet, enfin, après, moi, je pense que Fleur est plus apte que moi à répondre sur ces questions-là, parce que, en réalité, ces peuples-là, en effet, on les croise dans une histoire qui est vraiment une histoire qui commence à s'inscrire vraiment comme la science-fiction pure. Mais finalement, après, ce mélange aussi avec ces Sélénites qu'on voit que d'Henri de Graffini, que Fleur écrivait, qui sont vraiment des espèces de, je sais pas, de figures à la fois douces et dangereuses. Mais en réalité, assez rapidement, après, dans les imaginaires américains notamment, on va rajouter après des pin-up, on va rajouter un peu des militaires. On va rajouter des choses à multiples formes, à multiples bras, à multiples couleurs, etc. Mais oui, le Sélénite, c'est le premier alien, oui, vraisemblablement. Enfin, je pense qu'elle sera plus apte que moi à répondre sur cette question.
Fleur Hopkins Lauferon.
Oui, je ne pense pas que ce soit une question piège. Enfin, je pense absolument que les Sélénites en fait, représentent un des grands thèmes phares de la science-fiction. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est celui de l'altérité. Et c'est là le paradoxe en fait, assez saillant dans ces représentations et ces textes-là. C'est qu'ils sont généralement anthropomorphes, ils sont bipèdes, donc ils rappellent quelque chose de l'humanité, mais on essaye de leur adjoindre des caractéristiques qui les éloignent de nous-mêmes. Et j'ai en tête notamment la représentation des Sélénites, évidemment, réalisée pour Les premiers hommes dans la Lune de H.G. Wells en 1901, avec sur le premier plat du cartonnage chez Juvène, on voit cet être très bizarre entre l'insecte et le perroquet, mais il se tient sur deux jambes. Donc, inévitablement, l'altérité se pense tout de même par un prisme anthropomorphe, en fin de compte.
Justement, cet anthropomorphisme, comment il apparaît aussi au cinéma qui est tout naissant et qui s'approprie le thème lunaire?
Oui, alors il y a un film, et heureusement on peut le trouver sur YouTube très facilement, donc j'invite vraiment les auditeurs à aller le voir de toute urgence. C'est évidemment Le voyage dans la Lune de Méliès en 1902, qui sera d'ailleurs plus ou moins plagié par Secundo de Chomone en 1908, qui reprend quasiment plan par plan ce fameux petit film muet. Et en fait, c'est tout simplement un dérivé de Jules Verne assez spontanément, puisqu'on a l'obus, on arrive sur la Lune. Mais là où c'est assez intéressant, c'est que dans ce film, on a un pot pourri d'influence. On retrouve en fait le spectre de H.G. Wells, puisque quand nos aventuriers arrivent sur la Lune, eh bien les Sélénites habitent dans des crevasses, ils habitent dans une ville souterraine, et ça, c'est pas du tout emprunté à Jules Verne, c'est emprunté précisément aux Sélénites de Wells. Et puis de la même manière, l'atmosphère, la faune, la flore que l'on voit, on dirait que c'est très lié au fameux canular lunaire de Locke. Donc en fin de compte, on voit que dans ce film-là, il y a tout un tas d'influences qui sont partagées, et là où il y a enfin, ça reste un film fondamental parce qu'on voit la fameuse lune avec son œil crevé. Enfin, c'est cette lune faciès hein, qui sera reprise par Secundo de Chomón et qui est maintenant vraiment un classique de la culture visuelle. Mais surtout, petit détail assez amusant, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que dans beaucoup de ses représentations et ses imaginaires, on ne se pose jamais la question de comment retourner sur Terre. Et généralement, dans les récits comiques, ça va se faire avec un mouchoir de poche, avec un parachute. Et là, on voit bien que l'héritage de Verne est là, puisque vraisemblablement, on tombe hein, dans les grands espaces marins. Et donc, il suffit de faire tomber l'obus et puis ça va. On survit à cette expérience terrible.
Toujours à propos de ces sélénites et de cette altérité extraterrestre, Fleur Hopkins Lauferon, à partir de quand la Lune commence à se vider de ses habitants? À partir de quand la vie disparaît?
Alors, c'est toujours très arbitraire, hein, suivant le corpus qu'on choisit de poser une date. Moi, il me semble en tout cas qu'il y a déjà un premier désaveu de la Lune qui tourne autour de 1877. Et ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à Giovanni Schiaparelli, hein, l'astronome, qui observe deux possibles canaux sur Mars. Donc là, je dirais, le terme désaveu est peut-être trop fort, mais il y a un désintérêt progressif hein, pour la Lune où on se dit, il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Il y a mieux à faire sur Mars. Et justement, il y a beaucoup de débats qui battent leur plein à cette époque-là de se dire, mais en fin de compte, la Lune est peut-être absolument inhospitalière. Et il y aura tout un tas d'essais, notamment Camille Flammarion et sa pluralité des mondes habités. Enfin, il y a tout un tas d'essais qui sont très importants et qui marquent des échelons dans cette histoire de l'habitation, de l'habitabilité, de l'existence d'une population sur la Lune précisément. Mais je pense que véritablement, on commence dans les débats publics à se dire, mais en fin de compte, la Lune n'est pas habitée et c'est un point très saillant. Elle est peut-être une planète morte vivante. Et donc le regard va se détourner, c'est plus la Lune dans sa globalité qu'on va percevoir comme un territoire à habiter, ça va être précisément sa face cachée. Et c'est là où justement ceux qui étaient des amoureux de la Lune voient un potentiel formidable, ils se disent d'accord, la Lune n'est pas habitée, peut-être que dans la majorité de sa surface c'est une terre gaste, une terre morte, aride, mais la face cachée qu'on ne voit pas, c'est sans doute un paradis terrestre, c'est sans doute un Éden oublié, donc on retrouve aussi toute notre discussion sur le christianisme cosmique et de là on aura des récits tout à fait délirant, en tout cas en ce qui touche la science-fiction. J'ai par exemple en tête, c'est les années 30, mais René Marcel Denisrolle hein, et ses aventuriers du ciel, alors lui, il est persuadé que sur la face cachée, on a des créatures préhistoriques qui jouissent d'une liberté folle au milieu de la jungle. Hein, et évidemment, les aventuriers sont tout à fait terrorisés quand ils tombent sur ces créatures antédiluviennes. Et j'insiste sur le mot parce qu'en fin de compte, la Lune, on le voit bien, elle sert aussi de capsule temporelle. Et très souvent, les voyageurs de la science-fiction, quand ils arrivent sur la Lune, ils sont soit projetés dans le futur, parce que les sélénites ont une technologie qu'on ne maîtrise pas de communication extraplanétaire, de fusée, et donc on fait un bond dans le temps, ou alors on remonte le temps un peu à la manière du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Rentrer en contact avec la Lune, ça pose la question de la temporalité à chaque fois.
La temporalité de cette émission, c'est qu'elle avance bien trop vite. Que trouve-t-on sur la face cachée de la Lune? On continue de vous raconter, restez à l'écoute.
Moi j'ai
direct sur France Culture, Plastic Bertrand qui chante tout petit la planète, parce que nous parlons de la planète morte vivante, nous parlons de la Lune dans nos imaginaires terrestres. On en parle avec nos deux invités du jour, Fleur Hopkins-Lauferon, chercheur en science-fiction, histoire des imaginaires et culture populaire, et Elsa De Smet, docteur en histoire de l'art contemporain. On a vu que la fascination pour la Lune était liée au manque d'informations, puis la question s'est petit à petit déplacée vers Mars, mais tant que nous n'avons pas mis le pied sur le sol lunaire, sur le régolithe, Elsa De Smet, comment s'est-on représenté ce paysage-là?
Alors, on s'est représenté ce paysage-là justement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, à partir des années 1850. On commence à s'autoriser en fait à passer par les images pour représenter ce paysage qu'en fait on aperçoit comme on s'outille avec les télescopes de plus en plus puissants grâce aux évolutions et aux révolutions industrielles successives. En fait, on a un certain nombre de données. C'est une histoire qu'on pourrait considérer de la fin du 19e siècle jusqu'à encore aujourd'hui, l'image, pas du tout pour parler de la Lune pour le coup, mais par exemple une image du trou noir qu'on a pu apercevoir en 2019, c'est un exemple qui s'inscrit dans cette même histoire, c'est-à-dire on produit des images à partir des données qu'on collecte. Donc à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on commence à avoir un certain nombre d'informations et à pouvoir apercevoir le sol lunaire, contrairement aux autres, il va être beaucoup plus compliqué d'apercevoir le sol des autres planètes, plus elles sont éloignées, plus évidemment c'est difficile de les apercevoir au télescope. Donc avec ce qu'on observe, on commence à se les représenter. En réalité, même on pourrait revenir un petit peu en arrière, parce que c'est Galilée, le premier, qui va dire, ok, en fait on m'a parlé d'un nouvel outil, qui serait une lentille d'observation, qui va devenir en fait le télescope plus tard, et qui est le premier à tourner vers la Lune et à dire, finalement je vais faire au dessin ce que j'aperçois. Parce que ce qu'il manifeste en disant ça, c'est que on peut se servir aussi des outils et des savoir-faire du dessin et de la représentation et de l'histoire de la représentation du paysage pour commencer à montrer ce que l'on voit. Et ces images, ce sont en fait des sortes de véhicules cognitifs pour dire je vais vous montrer ce que l'on peut apercevoir si notre œil est augmenté, mais que l'on ne voit pas encore. Donc comment est-ce qu'on représente des choses dont on ne peut pas faire l'expérience phénoménologique directe? Ça va être donc par le biais justement de cette synthèse que permet l'histoire des représentations, qui elle-même s'inscrit dans une histoire des représentations paysagères et qui vient alors toquer à la porte aussi de canons de l'histoire de la représentation qui date de la Renaissance, etc. Au début, on est vraiment sur des paysages, en fait.
Mais justement, comment l'art du paysage s'est-il emparé de la question lunaire? On peut aussi parler des travaux de Lucien Rudeau.
Oui, alors comment l'art du paysage s'est emparé des questions lunaires, c'est plutôt comment l'art lunaire s'est emparé des questions de paysage, ou comment l'art spatial, on pourrait dire, s'est emparé des questions de appris, en fait, l'histoire des représentations, pour justement, encore une fois, dire finalement de manière par analogie, on va transposer un paysage qui peut être un paysage finalement familier à quelque chose qui est absolument non familier, qui est un paysage extraterrestre. Donc cette aventure, au départ, dans l'imaginaire de la représentation vraiment visuelle, elle se base sur vraiment quelque chose qui est, on est au 19e siècle, on est en pleine période où le paysage est un sujet d'avant-plan, on devient un vrai sujet devient un sujet pour lui-même de la peinture. Et en fait, par analogie, on reprend des codes, c'est-à-dire l'utilisation d'une perspective, l'utilisation d'une ligne d'horizon, des proportions dans le tableau, qui vont ensuite être transposées donc à ces paysages qui sont extraterrestres. Il y a une transposition, un des motifs qui va être les plus récurrents, c'est notamment le clair de terre, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, on a tous peut-être en tête des images de la peinture romantique, notamment la peinture allemande romantique de Friedrich, etc., où on voit des gens qui observent un clair de lune ou un coucher de soleil. Cette image romantique va être transposée dans des illustrations, celle de Rudeau, mais aussi dans les illustrations des ouvrages de Camille Flammarion, etc. On va observer finalement la Terre depuis un poste lunaire. C'est un renversement de la pièce, en fait, c'est un renversement de la vue qui s'opère en utilisant vraiment ce même motif.
Mais sur Lucien Rudeau, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que on est face à un Français qui est scientifique, plusieurs casquettes, un astronome, météorologue, climatologue, mais surtout aussi vulgarisateur, photographe et illustrateur des sciences, Elsa De Smet.
Oui, Lucien Rudeau, c'est un personnage intéressant parce qu'il est totalement autodidacte, mais comme le sont beaucoup en fait des scientifiques de cette nouvelle science. Faire tout à l'heure mentionner la question du scientisme, on est vraiment dans une période très particulière où il y a des gens comme ça qui vont faire avancer des savoirs scientifiques, mais en étant totalement autodidacte et qui ne sont pas du tout associés aux institutions ou aux académies, etc. Lucien Rudeau, il est formé au dessin, à la représentation, parce que son père était lui-même dessinateur et illustrateur. Il est formé formé par des peintres, par le biais de son père, il est formé à vraiment la peinture pittoresque et vraiment issue donc du 19e siècle, de l'école de Barbizon, des peintres de Fontainebleau, etc. Et puis lui, il se passionne absolument pour l'astronomie. Il s'installe un poste d'observation. Il habite en Normandie, donc il a un point de vue assez parfait pour observer justement. Pour observer justement le ciel, puisqu'il faut quand même avoir une vue assez dégagée. Et donc il installe son petit observatoire et commence à faire des dessins. Et ces dessins vont être repérés par la Société Astronomique de France, qui est représentée par Camille Flammarion, et qui dit finalement, ok, là il y a quelqu'un qui est capable, en réalité, de donner à voir, de représenter, de montrer ce que finalement on ne peut pas voir, mais dont on sait que ça existe, puisque les savoirs scientifiques que nous compilons nous amènent à savoir que ça pourrait éventuellement ressembler à ça. Et donc les images deviennent des hypothèses visuelles qui vont nourrir un imaginaire qui n'est pas du tout un imaginaire fictionnel à ce moment-là, qui est un imaginaire qui est vraiment cet imaginaire de la culture visuelle qui va construire ensuite le rêve de pouvoir aller dans l'espace.
Sur cette culture visuelle et sur les arts visuels, la BD n'est pas en reste. On peut évidemment citer Tintin dans le diptyque Objectif Lune et On a marché sur la Lune, avec beaucoup de réalisme, 15 ans avant le premier pas sur la Lune. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast que nous avions fait, hein, Tintin, 1000 milliards de 1000 savoirs. On a de très nombreuses photographies de la Lune, la fameuse Blue Marble, cette photo de la Terre. Fleur Hopkins, l'offrant, maintenant qu'on voit cet astre, comment on continue de rêver maintenant qu'on sait qu'on peut y aller et qu'on sait très bien ce qu'on y trouve sur place?
Est-ce qu'on continue de rêver? Je pense que c'est la vraie question. Est-ce qu'on continue vraiment d'imaginer la Lune comme un ailleurs, comme un impossible, comme un potentiel? Alors c'est vraiment modestement que je réponds parce que je suis pas du tout spécialiste de la science-fiction post-50. Mais pour autant, moi, ce qui me frappe, c'est que la Lune, dans les imaginaires, de manière globale, a maintenant une fonction plutôt utilitaire. Elle va être effectivement un arrêt. On va s'arrêter là-bas pour refaire un plein, pour refaire du stock et on va repartir. Et elle est intégrée beaucoup plus largement à une histoire de l'exploration spatiale. Et ça, on remarque un les années 30 dans la fiction française, tout du moins avec Richard Bessières, René Marcel de Nisrolles, la Lune n'est pas un objectif, elle est une étape, on s'arrête, on repart plus loin. Et en fin de compte, ce qu'on constate dans la science-fiction américaine dans sa globalité, hein, c'est que la Lune, elle va être un lieu de dépôt, un lieu de construction, mais plus un lieu de colonisation. On pourra en faire par exemple une prison pénitentiaire, hein, chez Heinlein, on envoie tous ceux qu'on ne veut plus voir sur Terre sur la Lune. On peut par exemple y stocker un vaisseau de guerre, hein, chez Weber, par exemple. Enfin, on a tout un tas de fonctions utilitaristes attribuées à la Lune, mais c'est parce que, dûment, les humains choisissent de l'utiliser pour leur propre usage, mais il n'y a plus l'espérance qu'on va y trouver quelque chose. Et autre aspect très saillant aussi de cette Lune, hein, c'est aussi des nouvelles qui touchent aux complots, qui touchent aux imaginaires un peu détraqués, où la Lune, en fin de compte, on se rend compte qu'elle n'est qu'une Lune de papier mâché.
On a en effet, hein, le côté Lune qui devient une sorte d'entrepôt. On le voit, hein, dans Ad Astra, par exemple, de James Gray en 2019, où on voit Brad Pitt qui traverse le système solaire pour retrouver son père, Tommy Lee Jones.
Ou un repère de méchant. On n'a pas parlé de ça, mais la Lune sert encore aux méchants dans les dessins animés.
Eh ben, vous me coupez l'herbe sous le pied, Elsa de Smet. Je voulais également vous interroger là-dessus. Mais avant ça, on va parler évidemment du côté obscur de la face.
Inutile de vous attarder sur ce genre de jouet. Celui qu'il faut abattre, c'est Actarus. Pourquoi ne s'est-il pas encore montré? Envoyez toute la puissance!
Professeur, Actarus fait une sortie avec Goldorak.
Non.
Comment ?
Si Goldorak fait une sortie maintenant, Hidargos saura que notre base est pratiquement sans défense. Koshir, déclenchez le brouillage radar.
À vos ordres, brouillage radar.
On ne voit plus rien.
Continuez, c'est la seule chance que nous ayons de découvrir enfin la base de Goldorak.
Goldorak, Fargo.
Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre.
Ouais, Goldorak en 1975, le camp de la Lune noire et la base avancée des forces de Vega. Elsa de Smet, la face cachée de la Lune, c'est ce lieu de mystère et de menace aussi maintenant dans les imaginaires contemporains.
Oui, alors je pense que dans les imaginaires contemporains, elle est devenue un lieu de menace, mais elle est devenue aussi un poste d'observation, en effet une étape. En même temps, il y a quelques années, il me semble qu'il y a eu des missions chinoises en fait, qui ont aussi voulu aller de l'autre côté, parce qu'il y a peut-être aussi cette deuxième conquête qui pourrait se faire, mais comme disait Flore aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la Lune, elle est tellement liée aussi à des imaginaires contradictoires et des imaginaires qui sont aussi aujourd'hui qui peuvent toucher des questions qui n'ont même plus rien à voir en fait avec la conquête, etc. Donc elle a cette ambivalence là qui fascine, à mon avis, qui continuera de fasciner toujours autant. Après, je ne suis pas non plus hyper spécialiste de ce qui se passe aujourd'hui dans la science-fiction à proprement parler. En effet, à part les exemples de cinéma que vous avez cités, ce qui est intéressant en revanche, c'est de constater qu'à mon avis, il y a un retour qui va se faire probablement sur cet imaginaire-là, parce que ce que les astrophysiciens aujourd'hui sont en train de démontrer, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que toutes les planètes étaient habitées. Ensuite, on a constaté que pas tellement. Puis, on a pensé, dans les années 70, qu'il devait y avoir quelque chose d'autre dans les exoplanètes, etc. Machin. Aujourd'hui, même ces exoplanètes et ce grand bestiaire qui finalement nourrit les nouveaux imaginaires de planétologie qui pourraient être associés à cet imaginaire de la Lune avant qu'on y aille, eux aussi sont un peu source à la fois de plein de découvertes nouvelles et un peu de considérations différentes par rapport à ce qu'on avait pu imaginer trouver. C'est-à-dire qu'on pensait peut-être trouver, comme ça avait été le cas avec la Lune, peut-être une terre sœur ou un endroit où on pourrait trouver d'autres que nous. Avec les exoplanètes, il se passe aussi un petit peu cette chose-là. Aujourd'hui, la démonstration qui est en train d'être faite, c'est que potentiellement, c'est parce que la Lune est si proche de nous et qu'elle est si grande par rapport à la planète dont elle dépend en tant que satellite, que c'est elle qui explique notre exception et notre habitabilité à nous. Et donc, potentiellement, ce ne sera plus un imaginaire du même ordre, mais elle devient un peu notre... c'est le yin et le yang, enfin, c'est la force sombre et la force claire, et c'est vraiment la nécessité des deux et l'exception que forment la Terre et la Lune ensemble qui va, à mon avis, générer peut-être aussi une autre possibilité de dialogue et donc de projection.
Vous évoquiez en effet la mission chinoise Chang'e 4 qui le 3 janvier 2019 s'est posée, cette sonde qui s'est posée sur la face cachée de la Lune, donc même la face cachée n'est plus si cachée que ça. Fleur Hopkins-Laufréon, on évoquait cette tradition justement de cette face cachée comme refuge des forces maléfiques.
Oui, absolument. Ça, c'est plutôt contemporain. On le trouve en fin de compte très peu dans la fiction du XXe. C'est plutôt l'idée que la face cachée est un Éden et que véritablement elle est foisonnante, elle est luxuriante et c'est la potentialité de la vie sur la Lune qui est tout entière justement contenue par cette face cachée. Et c'est progressivement depuis les années 1950 et surtout dans l'imaginaire contemporain que la face cachée devient le lieu où on peut cacher des piliers dans Transformers 3. On peut effectivement avoir une base secrète où les méchants complotent contre les gentils de Goldorak. Donc effectivement la face cachée, c'est un peu les derniers strates de l'imaginaire lunaire, en fin de compte, où on a encore ce potentiel de vie, en fin de compte, sur la Lune et non pas de lieu de stockage.
Et puis c'est sans oublier Iron Sky, où les nazis se sont réfugiés sur la Lune. Voilà, vous parliez de créatures préhistoriques, méchants, voilà, les grands méchants qui sont... c'est un film qui est gentiment... c'est un joyeux nanar et c'est très grand guignolesque. Quels sont les projets artistiques qui continuent de faire vivre cet imaginaire lunaire? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trio.
En direct sur France Culture avec Elsa de Smet et Fleur Hopkins-Laufréon, nous parlons de la Lune. Vous avez reconnu peut-être 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est notre 4e épisode consacré aux imaginaires lunaires. Fleur Hopkins-Laufréon, à quel point la Lune continue-t-elle de faire rêver aujourd'hui, alors je sais que vous êtes une spécialiste plutôt des littératures de l'imaginaire du 19e et du début du 20e siècle, mais aujourd'hui on peut parler d'une certaine forme d'imaginaire autour des théories du complot par exemple.
Oui absolument, et là j'ai en tête vraiment un épisode de Rick et Morty qui est vraiment marrant, où de fait Morty découvre qu'on lui a effacé des souvenirs, et parmi ces souvenirs-là, il y a un souvenir qui en fait touche totalement aux imaginaires du 19e et du 20e, celui de la tâche sur le télescope. Et en fait, il croit apercevoir Mr. Moon, je crois, au travers de son télescope, et en fin de compte, c'est pas du tout un habitant lunaire, il fait malheureusement condamner un homme qui n'est pas du tout un sélénite. Et donc il y a vraiment cette idée, effectivement, d'une permanence des théories du complot, pour le dire très largement, hein, plutôt des imaginaires potentiels, des vérités cachées, et surtout, je pense que la bonne expression à utiliser, c'est celle d'histoire secrète. On le retrouvait notamment avec ce film complètement nanar autour des nazis, hein, cette idée que la Lune, elle a un potentiel de réécrire une histoire parallèle à celle de la Terre. Et là, c'est un peu ce que propose de manière un peu éhontée, hein, l'épisode de Rick et Morty, mais je le disais un peu plus tôt, on le retrouve dans d'autres histoires, enfin, par exemple les idées ont la vie dure, hein, d'Isaac Asimov dans les années 50, hein. C'est une très belle nouvelle dans laquelle on a justement des personnages qui se préparent à une mission dans l'espace, on les met dans une pseudo-fusée et on les approche près d'une lune et ils arrivent du côté de la face cachée et malheur, ils découvrent un peu à la manière du Truman Show, hein, que la lune n'est qu'une lune en carton en fait, et ils sont catastrophés en se disant peut-être qu'on leur a menti en fait toute leur vie. Et ça, c'est un peu des pirouettes intellectuelles qu'on retrouve dans pas mal de nouvelles de science-fiction, cette idée que la lune, elle est factice, elle est fausse, et c'est même pas une théorie du complot, c'est la lune dans son intégralité qui n'est rien d'autre qu'un bout de carton ou qu'un vaisseau intergalactique qui se grime en lune en fin de compte.
Elsa de Smet.
Oui, bah je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'elle devient ce papier de carton, mais qui est un peu le papier de carton qui renvoie aussi la balle vers l'imaginaire généré par le film de Méliès qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est aussi cette lune en papier mâché. Mais de fait, ce que vous disiez aussi est intéressant sur la question du complot, parce que ce qui peut fasciner autour de la question, enfin autour de l'image de la lune, des imaginaires qui sont associés à la lune, qui devient fascinant aussi après justement le premier alunissage, c'est finalement est-ce que les images sont vraies, est-ce qu'on y est vraiment allé, est-ce que tout ça a vraiment existé, etc. Il y a eu quand même aussi un faux documentaire qui racontait justement, qui faisait croire que tout ça était une fausse histoire, etc. Donc il y a vraiment cet imaginaire complotiste qui s'est créé et qui est devenu quelque chose d'insidieux, mais en même temps, c'est un peu le canular d'après, quoi.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique Avec Science, avec Alexandra Delbo. Mais j'invite nos auditeurs, Elsa de Smet, à se tourner vers votre ouvrage, vers le livre Voir l'espace, astronomie et sciences populaires illustrées, qui est édité aux presses universitaires de Strasbourg. Merci à vous deux. C'est l'heure de retrouver la chronique Avec Science.
Les météorites en Antarctique sont-elles vouées à disparaître avec le changement climatique? Quand on pense Antarctique et changement climatique, on pense d'abord fonte des glaces et montée des eaux. Dans les cas extrêmes, le réchauffement de la calotte glaciaire pourrait contribuer à l'élévation du niveau marin de plusieurs mètres sur le long terme. Pourtant, cette région polaire n'accueille pas que des manchots, mais aussi des champs entiers de météorites. C'est en fait l'endroit numéro un pour en trouver, d'abord parce que le noir se voit bien sur le blanc, mais pas seulement. Arizé Colari est climatologue, professeur associé à la Vrije Universiteit de Bruxelles et co-auteur de cette étude parue dans Nature Climate Change.
En fait, on voit qu'il y a environ 60% de toutes les météorites qui ont été trouvées sur Terre, ce qui correspond à environ 50 000 météorites, ont été trouvées en Antarctique. Et on voit en fait qu'il y a trois raisons. La première raison est la visibilité. Quand on a une météorite en Antarctique, en fait, on va la voir très facilement dans un paysage qui est blanc, qui est bleu. Alors que si la météorite, elle va tomber, par exemple, dans une forêt ou dans un champ, ou même dans notre jardin, on ne va pas la retrouver. Une deuxième raison, c'est qu'il fait très froid. Et comme c'est froid, on va bien conserver la météorite. Elle sera mieux protégée. Elle pourra rester plus longtemps de façon intacte. Et la troisième raison, peut-être la raison la plus importante, c'est l'écoulement de la glace. En fait, on voit qu'en Antarctique, la glace se bouge. Sous la gravité, elle va du centre du continent vers les bords. Et en fait, ça va faire que grâce à l'écoulement de la glace, il va y avoir des zones de glace précieuses, des zones de glace bleue, où on va retrouver beaucoup de météorites. Et en fait, c'est des endroits où on va avoir une concentration de météorites, ce qui fait que si on organise une expédition pour aller vraiment à un endroit spécifique, là, on peut retrouver beaucoup de météorites sur un petit endroit.
Cette glace bleue ne représente qu'1 à 2% de la surface de l'Antarctique. Pourtant, c'est là où se trouve la majorité des météorites. D'abord, parce que quand elles s'y trouvent, elles y restent et parce que ces zones sont balayées par les vents violents et donc les météorites deviennent encore plus visibles. Le problème, évidemment, c'est que si la glace fond, les cailloux spatiaux vont littéralement plonger sous la surface et donc disparaître de notre vue et de notre portée. Ces disparitions de météorites sont donc appelées à s'amplifier avec le changement climatique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène existait sûrement en temps normal, disons, mais avec le changement climatique, les disparitions risquent de devenir de plus en plus fréquentes. La question est à quel point ? Quelle proportion de météorites pourrait-on perdre, sous-entendu ne jamais pouvoir récupérer à l'avenir ? Pour l'estimer, ces scientifiques ont mené une première étude. Il y a 2 ans, grâce à une intelligence artificielle, ils ont créé une sorte de carte au trésor pour répertorier et modéliser là où pourrait se trouver le plus de météorites et comprendre ce qui affecte leur découverte. Résultat de cette étude précédente, la localisation des météorites dépend fortement de la température. Ce qui a conduit à cette seconde publication en y ajoutant une modélisation du climat à venir en changeant la température. Résultat de cette nouvelle étude, la carte au trésor dans un monde plus chaud est bien plus parsemée. La disparition des météorites varie entre 25 à 75% en fonction du scénario climatique.
On voit en effet qu'il y a une fourchette, ça va dépendre du réchauffement futur, va vraiment déterminer à quel point on perd les météorites. Et ça met vraiment en avant pourquoi c'est important de limiter le réchauffement climatique. Si on prend l'accord de Paris, donc l'accord de Paris où on parle d'un réchauffement climatique de 1,5 à 2 degrés, c'est comparé aux valeurs pré-industrielles, on pourrait être dans un cas où on va que perdre autour de 20% des météorites, donc c'est encore limité, on va garder la plupart des météorites à la surface. Mais puis on voit que chaque dixième degré de réchauffement, même si pour nous, en tant que personne, ça ne dit pas grand-chose, la différence entre un monde où on est à plus 2,1 degrés ou plus 2,2 ou plus 2,3, mais on voit que ça va avoir un effet important et on voit que chaque dixième degré de réchauffement climatique additionnel va nous faire 1 ou 2 % de perte de météorites en plus. Et là, on voit que les chiffres peuvent être très dramatiques et dans un cas extrême, donc avec un cas avec un réchauffement qui est très prononcé en fin de siècle, on pourrait perdre jusqu'à 75 % de toutes les météorites.
Et il y a 2 éléments à retenir. D'abord, il ne s'agit pas seulement d'un problème futur. La disparition des météorites a déjà commencé. Sur les 10 dernières années, lors des expéditions, près de 1000 météorites ont été récoltées par an. Et l'étude démontre que 5000 météorites sont déjà perdues chaque année, soit 5 fois plus que celles que l'on trouve. Et 2e élément, ce n'est pas un problème futile. Ces cailloux interplanétaires constituent des archives uniques de la formation du système solaire. Il faut donc réagir rapidement et entamer de grandes moissons de météorites dès maintenant dans les zones les plus touchées par le réchauffement climatique et entamer de grandes moissons de météorites dès maintenant dans les zones les plus touchées par le réchauffement. Il y a pour cela 2 missions belges à venir nommées Froid et Ultimo. Elles sont prévues pour l'hiver 2024-2025.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Alexandre Morales, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Lamège. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.